Jules Verne, sans dessus-dessous, chapitre 2, dans lequel les délégués anglais, hollandais, suédois, danois et russes se présentent au lecteur. Le document méritait une réponse. En effet, si la nouvelle association acquérait les régions boréales, ces régions deviendraient propriété définitive de l'Amérique, ou pour mieux dire des États-Unis, dont la vivace confédération tend sans cesse à s'accroître. Déjà depuis quelques années, la cession des territoires du Nord-Ouest faite par la Russie depuis la cordillère septentrionale jusqu'au détroit de Bering venait de lui adjoindre un bon morceau du Nouveau Monde. Il était donc admissible que les autres puissances ne verraient pas volontiers cette annexion des contrées arctiques à la République fédérale. Cependant, ainsi qu'il a été dit, les divers États de l'Europe et de l'Asie, non limitrophes de ces régions, refusèrent de prendre part à cette adjudication singulière, tant les résultats leur en semblaient problématiques. Seules les puissances dont le littoral se rapproche du 84e degré résolurent de faire valoir leurs droits par l'intervention de délégués officiels. On le verra du reste, elles ne prétendaient pas acheter au-delà d'un prix relativement modique, car il s'agissait d'un domaine dont il serait peut-être impossible de prendre possession. Toutefois, l'insatiable Angleterre crut devoir ouvrir à son agent un crédit de quelque importance. Hâtons-nous de le dire, la cession des contrées circumpolaires ne menaçait aucunement l'équilibre européen et il ne devait pas en résulter aucune complication internationale. Monsieur de Bismarck, le grand chancelier vivant encore à cette époque, ne fronça même pas son épais sourcil de Jupiter allemand. Restaient donc en présence l'Angleterre, le Danemark, la Suède-Norvège, la Hollande, la Russie, qui allaient être admises à lancer leurs enchères par devant le commissaire-priseur de Baltimore, contradictoirement avec les États-Unis. Ce serait au plus offrant qu'appartiendrait cette calotte glacée du pôle, dont la valeur marchande était au moins très contestable. Voici au surplus les raisons personnelles pour lesquelles les cinq États européens désiraient assez rationnellement que l'adjudication fût faite à leur profit. La Suède-Norvège, propriétaire du Cap Nord, situé au-delà du 70e parallèle, ne cacha point qu'elle se considérait comme ayant des droits sur les vastes espaces qui s'étendent jusqu'au Spitzberg et par-delà jusqu'au pôle même. En effet, le Norvégien Cléo, le célèbre Suédois de Nordenskjöld, n'avait-il pas contribué au progrès géographique dans ces parages? Incontestablement. Le Danemark disait ceci, c'est qu'il était déjà maître de l'Islande et des îles Féroé, à peu près sur la ligne du cercle polaire, que les colonies fondées le plus au nord des régions arctiques lui appartenaient, telles l'île Disco, dans le détroit de Davis, les établissements d'Holsteinborg, de Proven, de Godhavn, de Upernavik, dans la mer de Baffin et sur la côte occidentale du Groenland. En outre, le fameux navigateur Bering, d'origine danoise, bien qu'il fût alors au service de la Russie, n'avait-il pas, dès l'année 1728, franchi le détroit auquel son nom est resté avant d'aller, 13 ans plus tard, mourir misérablement avec 30 hommes de son équipage sur le littoral d'une île qui porte aussi son nom? Antérieurement à l'an 1619, est-ce que le navigateur Jean Munk n'avait pas exploré la côte orientale du Groenland et relevé plusieurs points totalement inconnus avant lui? Le Danemark avait donc des droits sérieux à se rendre acquéreur. Pour la Hollande, c'était ses marins Barents et Imscher qui avaient visité le Spitzberg et la Nouvelle-Zemble dès la fin du XVIe siècle. C'était l'un de ses enfants, Jean Mayenne, dont l'audacieuse campagne vers le nord en 1611 avait valu à son pays la possession de l'île de ce nom, située au-delà du 71e degré de latitude. Donc, son passé l'engageait. Quant aux Russes, avec Alexis Tchirikov, ayant Bering sous ses ordres, avec Politsky, dont l'expédition en 1751 s'avança au-delà des limites de la mer glaciale, avec le capitaine Martin Spanberg et le lieutenant William Walton, qui s'aventurèrent sur ces parages inconnus en 1739, ils avaient pris une part notable aux recherches faites à travers le détroit qui sépare l'Asie de l'Amérique. De plus, par la disposition des territoires sibériens, étendus sur 120 degrés, jusqu'aux limites extrêmes de Kamtchatka, le long de ce vaste littoral asiatique, où vivent Samoyèdes, Yakoutes, Tchouktchis et autres peuplades soumises à leur autorité, ne dominent-ils pas une moitié de l'océan boréal? Puis, sur le 75e parallèle, à moins de 900 milles du pôle, ne possèdent-ils pas les îles et les îlots de la Nouvelle-Sibérie, Cet archipel des Liatko, découvert au commencement du XVIIIe siècle, enfin, dès 1764, avant les Anglais, avant les Américains, avant les Suédois, le navigateur Tchiktchakov n'avait-il pas cherché un passage du nord afin d'abréger les itinéraires entre les deux continents? Cependant, tout compte fait, il semblait que les Américains fussent plus particulièrement intéressés à devenir propriétaires de ce point inaccessible du globe terrestre. Eux aussi, ils avaient souvent tenté de l'atteindre tout en se dévouant à la recherche de Sir John Franklin, avec Grinnell, avec Kane, avec Hayes, avec Greely, avec DeLong et autres hardis navigateurs. Eux aussi pouvaient exciper de la situation géographique de leur pays, qui se développe au-delà du cercle polaire, depuis le détroit de Bering jusqu'à la baie de Hudson. Toutes ces terres, toutes ces îles, Wollaston, Prince Albert, Victoria, Roi Guillaume, Melville, Cockburn, Banks, Baffin, sans compter les 1000 îlots de cet archipel, n'étaient-elles pas comme la rallonge qui les reliait au 90e degré? Et puis, si le pôle Nord se rattache par une ligne presque ininterrompue de territoire à l'un des grands continents du globe, n'est-ce pas plutôt à l'Amérique qu'au prolongement de l'Asie ou de l'Europe? Donc, rien de plus naturel que la proposition de l'acquérir eût été faite par le gouvernement fédéral au profit d'une société américaine, et si une puissance avait les droits les moins discutables à posséder le domaine polaire, c'était bien les États-Unis d'Amérique. Il faut le reconnaître toutefois, le Royaume-Uni qui possédait le Canada et la Colombie anglaise, dont les nombreux marins s'étaient distingués dans les campagnes arctiques, donnait également de solides raisons pour vouloir annexer cette partie du globe à son vaste empire colonial. Aussi ces journaux discutèrent-ils longuement et passionnément. « Oui, sans doute », répondit le grand géographe anglais Clip Tringan dans un article du Times qui fit sensation. « Oui, les Suédois, les Danois, les Hollandais, les Russes et les Américains peuvent se prévaloir de leurs droits. Mais l'Angleterre ne saurait s'en déchoir, laisser ce domaine lui échapper. » La partie nord du nouveau continent ne lui appartient-elle pas déjà? Ces terres, ces îles qui la composent, n'ont-elles pas été conquises par ses propres découvreurs depuis Willoughby, qui visita le Spitzberg et la Nouvelle-Zemble en 1739, jusqu'à McClure, dont le navire a franchi en 1853 le passage du Nord-Ouest? Et puis, déclara le Standard par la plume de l'amiral Fizé, est-ce que Frobisher, Davis, Hall, Weymouth, Hudson, Baffin, Cook, Ross, Parry, Bechet, Belcher, Franklin, Mulgrave, Scobie, McClintock, Kennedy, Nares, Collinson, Archer n'étaient pas d'origine anglo-saxonne? Et quel pays pourrait exercer une plus juste revendication sur la portion des régions arctiques que ces navigateurs n'avaient encore pu atteindre? Soit, riposta le courrier de San Diego, Californie, plaçons l'affaire sur son véritable terrain. Et puisqu'il y a une question d'amour-propre entre les États-Unis et l'Angleterre, nous dirons si l'anglais Markham de l'expédition Nares s'est élevé jusqu'à 83 degrés 20 minutes de latitude septentrionale, les Américains Lockwood et Brainard de l'expédition Greely, le dépassant de 15 minutes de degré, ont fait scintiller les 38 étoiles du pavillon des États-Unis par 83 degrés 35 minutes, à eux l'honneur de s'être le plus rapproché du pôle Nord. Voilà quelles furent les attaques et quelles furent les ripostes. Enfin, inaugurant la série des navigateurs qui s'aventurèrent au milieu des régions arctiques, il convient de citer encore le Vénitien Cabot, 1498, et le Portugais Corte Real, 1500, qui découvrirent le Groenland et le Labrador. Mais ni l'Italie, ni le Portugal n'avaient eu la pensée de prendre part à l'adjudication projetée, s'inquiétant peu de l'État qui en aurait le bénéfice. On pouvait le prévoir, la lutte ne serait très vivement soutenue à coups de dollars ou de livres sterling que par l'Angleterre et l'Amérique. Cependant, à la proposition formulée par la North Polar Practical Association, les pays limitrophes des contrées boréales s'étaient consultés par l'entremise de congrès commerciaux et scientifiques. Après débat, ils avaient résolu d'intervenir aux enchères, dont l'ouverture était fixée à la date du 3 décembre à Baltimore, en affectant à leurs délégués respectifs un crédit qui ne pourrait être dépassé. Quant à la somme produite par la vente, elle serait partagée entre les 5 États non adjudicataires qui la toucheraient comme indemnité en renonçant à tous les droits dans l'avenir. Si cela n'alla pas sans quelques discussions, l'affaire finit par s'arranger. Les États intéressés acceptèrent d'ailleurs que l'adjudication fût faite à Baltimore, ainsi que l'avait indiqué le gouvernement fédéral. Les délégués, munis de leurs lettres de crédit, quittèrent Londres, La Haye, Stockholm, Copenhague, Pétersbourg et arrivèrent aux États-Unis 3 semaines avant le jour fixé pour la mise en vente. À cette époque, l'Amérique n'était encore représentée que par l'homme de la North Polar Practical Association, ce William S. Forster, dont le nom figurait seul au document du 7 novembre paru dans le New York Herald. Quant aux délégués des États européens, voici ce qui avait été choisi et qu'il convient d'indiquer spécialement par quelques traits. Pour la Hollande, Jacques Janssen, ancien conseiller des Indes néerlandaises, 53 ans, gros, court, tout en buste, petits bras, petites jambes, arquées, tête à lunettes d'aluminium, face ronde et colorée, chevelure en nimbe, favori grisonnant, un brave homme, quelque peu incrédule au sujet d'une entreprise dont les conséquences pratiques lui échappaient. Pour le Danemark, Erik Baldenak, ex-gouverneur des possessions groenlandaises, taille moyenne, un peu inégale d'épaule, gaster bedonnant, tête énorme et roulante, myope a usé le bout de son nez sur ses cahiers et ses livres, n'entendant guère raison en ce qui concernait les droits de son pays, qu'il considérait comme le légitime propriétaire des régions du Nord. Pour la Suède-Norvège, Jan Harald, professeur de cosmographie à Christiania, qui avait été l'un des plus chauds partisans de l'expédition Nordenskjöld, un vrai type des hommes du Nord, figure rougeaude, barbe et chevelure d'un blond qui rappelait celui des blés trop mûrs, tenant pour certain que la calotte polaire, n'étant occupée que par la mer paléocristique, n'avait aucune valeur, donc assez désintéressé dans la question et ne venant là qu'au nom des principes. Pour la Russie, le colonel Boris Karkov, moitié militaire, moitié diplomate, grand, raide, chevelu, barbu, moustachu, tout d'une pièce, semblant gêné sous son vêtement civil et cherchant inconsciemment la poignée de l'épée qu'il portait autrefois, très intrigué surtout de savoir ce que cachait la proposition de la North Polar Practical Association et si ce ne serait point dans l'avenir une cause de difficultés internationales. Pour l'Angleterre, enfin, le major Donnellan et son secrétaire Dean Toodrink. Ces derniers représentaient à eux deux tous les appétits, toutes les aspirations du Royaume-Uni, ses instincts commerciaux et industriels, ses aptitudes à considérer comme siens, d'après une loi de nature, les territoires septentrionaux, méridionaux ou équatoriaux qui n'appartenaient à personne. Un Anglais, s'il en fut jamais, ce major Donnellan. Grand, maigre, osseux, nerveux, anguleux, avec un cou de bécassine, une tête à la Palmerston, sur des épaules fuyantes, des jambes d'échassier, très vert sous ses 60 ans, infatigable, et il l'avait bien montré lorsqu'il travaillait à la délimitation des frontières de l'Inde sur la limite de la Birmanie, il ne riait jamais, et peut-être même n'avait-il jamais ri. À quoi bon ? Est-ce qu'on n'a jamais vu rire une locomotive, une machine élévatoire ou un steamer ? En cela, le major différait essentiellement de son secrétaire Dean Toodrink, un garçon loquace, plaisant, la tête forte, des cheveux jouant sur le front, des petits yeux plissés. Il était écossais de naissance, très connu dans la vieille enfumée pour ses propos joyeux et son goût pour les calembres d'Aisne. Mais, si enjoué qu'il fût, il ne se montrait pas moins personnel, exclusif, intransigeant que le major Donnellan lorsqu'il s'agissait des revendications les moins justifiables de la Grande-Bretagne. Ces deux délégués allaient être évidemment les plus acharnés adversaires de la société américaine. Le pôle Nord était à eux. Il leur appartenait dès les temps préhistoriques, comme si c'était aux Anglais que le Créateur avait donné mission d'assurer la rotation de la Terre sur son axe, et il saurait bien l'empêcher de passer entre des mains étrangères. Il convient de faire observer que si la France n'avait pas jugé à propos d'envoyer de délégués ni officiels ni officieux, un ingénieur français était venu pour l'amour de l'art suivre de très près cette curieuse affaire. On le verra apparaître à son heure. Les représentants des puissances septentrionales de l'Europe étaient donc arrivés à Baltimore et par des paquebots différents, comme des gens qui ne tiennent à ne point s'influencer. C'étaient des rivaux. Chacun d'eux avait en poche le crédit nécessaire pour combattre. Mais c'est bien le cas de dire qu'ils n'allaient point combattre à armes égales. Celui-ci pouvait disposer d'une somme qui n'atteignait pas le million, celui-là d'une somme qui le dépassait. Et en vérité, pour acquérir un morceau de notre sphéroïde, où il semblait impossible de mettre le pied, cela devait paraître encore trop cher. En réalité, le mieux partagé sous ce rapport, c'était le délégué anglais auquel le Royaume-Uni avait ouvert un crédit assez considérable. Grâce à ce crédit, le major Donnellan n'aurait pas grand-peine à vaincre ses adversaires suédois, danois, hollandais et russes. Quant à l'Amérique, c'était autre chose. Il serait moins facile de l'abattre sur le terrain des dollars. En effet, il était au moins probable que la mystérieuse société devait avoir des fonds considérables à sa disposition. La lutte à coups de millions se localiserait vraisemblablement entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Avec le débarquement des délégués européens, l'opinion publique commença à se passionner davantage. Les racontars les plus singuliers coururent à travers les journaux. D'étranges hypothèses s'établirent sur cette acquisition du pôle Nord. Qu'en voulait-on faire? Et qu'en pouvait-on faire? Rien, à moins que ce ne fût pour entretenir les glacières du Nouveau et de l'Ancien Monde. Il y eut même un journal de Paris, le Figaro, qui soutint plaisamment cette opinion. Mais encore aurait-il fallu pouvoir franchir le 84e parallèle. Cependant, les délégués, s'ils s'étaient évités pendant leur voyage transatlantique, commencèrent à se rapprocher lorsqu'ils furent arrivés à Baltimore. Voici pour quelle raison. Dès le début, chacun d'eux avait essayé de se mettre en rapport avec la North Polar Practical Association séparément, à l'insu les uns des autres. Ce qu'ils cherchaient à savoir pour en profiter, le cas échéant, c'était les motifs cachés au fond de cette affaire. Or, jusqu'à ce moment, rien n'indiquait qu'elle eût installé un office à Baltimore. Pas de bureau, pas d'employés. Pour renseignement, s'adresser à William S. Forster de High Street. Et il ne semblait pas que l'honnête consignataire de Moru en sût plus long à cet égard que le dernier portefeuille de la ville. Les délégués ne purent dès lors rien apprendre. Ils en furent réduits aux conjectures plus ou moins absurdes que propageaient les divagations publiques. Le secret de la société devait-il donc rester impénétrable tant qu'elle ne l'aurait pas fait connaître? On se le demandait. Sans doute, elle ne se départirait de son silence qu'après l'acquisition faite. Il suit de là que les délégués finirent par se rencontrer, se rendre visite, se tâter et finalement entrer en communication. Peut-être avec l'arrière-pensée de former une ligue contre l'ennemi commun, autrement dit la compagnie américaine. Et un jour, dans la soirée du 22 novembre, ils se trouvèrent en train de conférer à l'hôtel Wellesley, dans l'appartement occupé par le major Donnellan et son secrétaire Dean Toodrink. En fait, cette tendance à une commune entente était principalement due aux habiles agissements du colonel Boris Karkov, le fin diplomate que l'on sait. Tout d'abord, la conversation s'engagea sur les conséquences commerciales ou industrielles que la société prétendait tirer de l'acquisition du domaine arctique. Le professeur Jan Harald demanda si l'un ou l'autre de ses collègues avait pu se procurer quelques renseignements à cet égard. Et tous, peu à peu, convinrent qu'ils avaient tenté des démarches près de William S. Forster, auquel, d'après le document, les communications devaient être adressées. « Mais j'ai échoué, » dit Eric Baldenak. « Et je n'ai point réussi, » ajouta Jacques Janssen. « Quant à moi, » répondit Dean Toodrink, « lorsque je me suis présenté au nom du major Donnellan dans les magasins de High Street, j'ai trouvé un gros homme en habit noir, coiffé d'un chapeau haut de forme, drapé d'un tablier blanc qui lui montait des bottes au menton, et lorsque je lui ai demandé des renseignements sur l'affaire, il m'a répondu que le South Star venait d'arriver de Terre-Neuve à pleine cargaison et qu'il était en mesure de me livrer un fort stock de morue fraîche pour le compte de la maison Hardrinel & Co. « Et, » riposta l'ancien conseiller des Indes néerlandaise, toujours un peu sceptique, « mieux vaudrait acheter une cargaison de morue que de jeter son argent dans les profondeurs de l'océan glacial. » « Là n'est point la question, » dit alors le major Donnellan d'une voix brève et hautaine. « Il ne s'agit pas d'un stock de morue, mais de la calotte polaire. » « Que l'Amérique voudrait bien se mettre sur la tête, » ajouta Dean Toodrink en riant de sa répartie.
« Ça l'enrhumerait, » dit finement le colonel Karkov.
« Là n'est point la question, » reprit le major Donnellan. « Et je ne sais ce que cette éventualité de Coriza vient faire au milieu de notre conférence. Ce qui est certain, c'est que pour une raison ou pour une autre, l'Amérique, représentée par la North Polar Practical Association, remarquez le mot « practical », messieurs, veut acheter
une surface de 407 000 milles carrés autour du pôle arctique, surface circonscrite actuellement, remarquez le mot « actuellement », messieurs, par le 84e degré de latitude boréale.
« Nous le savons, Major Donnellan, » repartit Yann Harald et le reste. « Mais ce que nous ne savons pas, c'est comment la dite société entend exploiter ces territoires, si ce sont des territoires, ou ces mers, si ce sont des mers, au point de vue industriel. »
« Là n'est pas la question !» répondit une troisième fois le major Donnellan. « Un État veut, en payant, s'approprier une portion du globe qui, par sa situation géographique, semble plus spécialement appartenir à l'Angleterre. »«
À la Russie !» dit le colonel Kharkov.
« À la Hollande !» dit Jacques Janssen.
« À la Suède-Norvège !» dit Jan Harald.
« Au Danemark !» dit Éric Baldenac.
Les cinq délégués s'étaient redressés sur leurs ergots, et l'entretien risquait de tourner aux propos malsonnants, lorsque Dean Toodrink essaya d'intervenir une première fois. «
Messieurs, dit-il d'un ton conciliant, là n'est point la question, suivant l'expression dont mon chef, le major Donnellan, fait le plus volontiers usage. Puisqu'il est décidé en principe que les régions circumpolaires seront mises en vente, elles appartiendront nécessairement à celui des États représentés par vous, qui mettra à cette acquisition l'enchère la plus élevée. Donc, puisque la Suède-Norvège, la Russie, le Danemark, la Hollande et l'Angleterre ont ouvert des crédits à leurs délégués, ne vaudrait-il pas mieux que ceux-ci formassent un syndicat, ce qui leur permettrait de disposer d'une somme telle que la société américaine ne pourrait lutter contre eux ? Les délégués s'entre-regardèrent. Ce Dean Toodrink avait peut-être trouvé le point. Un syndicat. De notre temps, ce mot répond à tout. On se syndique comme on respire, comme on boit, comme on mange, comme on dort. Rien de plus moderne en politique aussi bien qu'en affaires. Toutefois, une objection, ou plutôt une explication, fut nécessaire et Jacques Janssen interpréta les sentiments de ses collègues lorsqu'il dit « Et après ?»«
Oui, après l'acquisition faite par le syndicat. »«
Mais il me semble que l'Angleterre, » dit le major d'un ton raide.
« Et la Russie ?»
dit le colonel, dont les sourcils se froncèrent terriblement.
« Et la Hollande ?» dit le conseiller.
« Lorsque Dieu a donné le Danemark aux Danois, » fit observer Éric Baldenac.
« Pardon, » s'écria Dean Toodrink, « il n'y a qu'un pays qui ait été donné par Dieu. C'est l'Écosse aux Écossais. »«
Et pourquoi ?» fit le délégué suédois.
« Le poète n'a-t-il pas dit « Deus nobis Ecosia fecit » riposta ce farceur en traduisant à sa façon l'ec usia du sixième vers de la première églogue de Virgile.
Tous se mirent à rire, excepté le major Donnellan, et cela enraya une seconde fois la discussion qui menaçait de finir assez mal. Et alors ce Dean Toodrink put ajouter « Ne nous querellons pas, messieurs, à quoi bon? Formons plutôt notre syndicat. »
« Et après ?» reprit Jan Harald.
« Après, » répondit Dean Toodrink, « rien de plus simple, messieurs. « Lorsque vous l'aurez acheté, ou la propriété du domaine polaire restera indivise entre vous, ou, moyennant une juste indemnité, vous la transporterez à l'un des États co-acquéreurs. Mais le but principal aura été préalablement atteint, qui est d'éliminer définitivement les représentants de l'Amérique. »
Elle avait du bon, cette proposition, du moins pour l'heure présente, car dans un avenir rapproché, les délégués ne manqueraient pas de se prendre aux cheveux, et on sait s'ils étaient chevelus. Lorsqu'il s'agirait de choisir l'acquéreur définitif de cet immeuble aussi disputé qu'inutile. De toute façon, ainsi que l'avait si intelligemment marqué Dean Toodrink, les États-Unis seraient absolument hors concours.
« Voilà qui me paraît sensé, » dit Éric Baldenac.
« Habile, » dit le colonel Kharkov.
« Adroit, » fit Jan Harald.
« Malin, » dit Jacques Janssen.
« Bien anglais, » dit le major Donnellan.
Chacun avait lancé son mot avec l'espoir de jouer plus tard ses estimables collègues.
« Ainsi, messieurs, » reprit Boris Kharkov, « il est parfaitement entendu que si nous nous syndiquons, les droits de chaque État seront entièrement réservés pour l'avenir. »
C'était entendu. Il ne restait plus qu'à savoir quels crédits ces divers États avaient mis à la disposition de leurs délégués. On totaliserait ces crédits. Et il n'était pas douteux que ce total présenterait une somme si importante que les ressources de la North Polar Practical Association ne lui permettraient pas de la dépasser. La question fut donc posée par Dean Toodrink. Mais alors autre chose, silence complet.
personne ne voulait répondre. Montrer son porte-monnaie, vider ses poches dans la caisse du syndicat, faire connaître par avance jusqu'où chacun comptait pousser ses enchères, nul empressement à cela. Et si quelques désaccords survenaient plus tard entre les nouveaux syndiqués, et si les circonstances les obligeaient à prendre part à la lutte chacun pour soi, et si le diplomate Kharkov se blessait des finasseries de Jacques Janssen, qui s'offenserait des menées sourdes d'Éric Baldenac, qui s'irriterait des roublardises de Jan Harald, qui se refuserait à supporter les prétentions hautaines du major Donnellan, qui, lui, ne se gênerait guère pour intriguer contre chacun de ses collègues. Enfin, déclarer ses crédits, c'était montrer son jeu quand il était nécessaire de poitriner. Véritablement, il n'y avait que deux manières de répondre à la juste mais indiscrète demande de Dean Toodring. Ou exagérer les crédits, ce qui eût été très embarrassant lorsqu'il se serait agi d'en opérer le versement, ou les diminuer d'une façon tellement dérisoire que cela dégénéra en plaisanterie et qu'il ne fut point donné suite à la proposition. Cette idée vint d'abord à l'ex-conseiller des Indes néerlandaises qui, il faut en convenir, n'était pas sérieux et tous ses collègues lui emboîtèrent le pas. « Messieurs, dit la Hollande par sa voix, je le regrette, mais pour l'acquisition du domaine arctique, je ne puis disposer que de 50 rixdalers. »
« Et moi que de 35 roubles, dit la Russie.
« Et moi que de 20 kronos, dit la Suède-Norvège. « Et moi que de 15 kronos, dit le Danemark. « Eh bien, répondit le major Donnellan d'un ton dans lequel on sentait toute cette dédaigneuse attitude si naturelle à la Grande-Bretagne. « Ce sera donc à votre profit que l'acquisition sera faite, messieurs, car l'Angleterre ne peut y mettre plus d'un shilling sixpence. » Et sur cette déclaration ironique finit la conférence des délégués de la vieille Europe.